Maintenant, le moment
de poursuivre notre lecture dans le chapitre 2 et les versets 11 à 14. Avant d'aller plus loin, je n'ai pas vérifié si le son au fond était bon. Je vois des pouces, ça va. Je sais qu'il est dedans, il est, le micro est en marche, mais des fois, je n'entends pas ici. Nous lisons donc dans... Ah, là-haut, ce n'est pas très bon. Est-ce qu'il y a possibilité de le monter un petit peu? Je fais appel au grand technicien en chef qui est devant moi. Donc de monter légèrement le volume, parce que dans la mezzanine, on n'est pas entendu. Donc pensons qu'on va faire les essais ici. Je vous invite donc à ouvrir vos bibles si vous les avez dans votre traduction ou langue favorite. Sinon nous allons suivre ici dans le livre de Galates chapitre 2. C'est évidemment un texte qui a un précédent, ce qu'on avait vu avant, mais on s'arrête ce matin sur les versets 11 à 14 du chapitre 2. Et donc, nous voulons faire la lecture de la parole de notre Dieu. Et pour la lecture de la parole de Dieu, je vous invite à vous lever.
Galates, chapitre 2, versets 11 à 14. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était condamnable. En effet, avant la venue de quelques personnes de chez Jacques, il mangeait avec les païens, mais après leur venue, il s'esquiva et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Comme lui, les autres juifs usèrent aussi de dissimulation, en sorte que Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Quand je vis qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile, je dis à Céphas, en présence de tous, « Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, comment peux-tu forcer les païens à judaïser ?» Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle a un contexte. Merci surtout parce qu'elle est écrite par l'œuvre de ton Esprit Saint. Merci Seigneur parce que l'Esprit Saint a fait en sorte qu'elle soit écrite, mais qu'elle soit aussi transmise et qu'elle vienne jusqu'à nous aujourd'hui. Notre prière, c'est que ton Esprit Saint, présent ici parmi nous, en chacun de nous, nous parle. Que ta parole, Seigneur, fasse écho en nous, mais plus que cela, qu'elle prenne racine et qu'elle porte du fruit, afin que ta parole, qui est la vérité, nous donne de grandir dans la connaissance de ton nom, nous donne de te voir sanctifier nos cœurs et nos pensées et nos désirs, et que Seigneur, cette parole ne retourne pas à toi sans avoir fécondé le terrain de nos cœurs et de nos pensées. Oui Seigneur, ta parole est la vérité, comme tu l'as toi-même prié, sanctifie-nous par la vérité de ta parole, et nous le prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à reprendre place. Alors ici, pour qu'on situe un petit peu les choses, c'est l'apôtre Paul qui parle. C'est l'apôtre Paul qui est en train de donner un exposé aux églises de la Galatie, dont je rappelle que ce sont des descendants de Gaulois, donc ça devrait nous dire quelque chose. Et donc dans cette épître, dans ces églises de la Galatie, l'apôtre Paul est en train de défendre une argumentation, verset après verset, pour que l'église ne succombe pas à la tentation d'une déviation de l'évangile. C'est une affaire qui peut paraître assez légère pour certains, mais qui pour l'apôtre Paul est d'une grande gravité et d'un grand sérieux. Et l'extrait que nous lisons ici fait écho de Céphas, c'est-à-dire Pierre, l'apôtre Pierre lui-même. Donc si vous n'aviez pas réalisé ici, ce que nous sommes en train de lire ici, c'est que Paul a publiquement repris Pierre parce qu'il était sur une fausse route. Intéressant dans le contexte qu'est là. Et je vais y revenir dans un instant ici. Et donc, dans un premier temps, eh bien Pierre, l'apôtre Pierre, est confronté à un problème par Paul. Donc, les apôtres sont en train de se confronter ici, en tout cas Paul confronte Pierre, et tout ce qu'on peut déjà dire, c'est que c'est grave, suffisamment grave, puisqu'il va s'agir là d'une confrontation publique. C'est pas juste Paul qui va dire à Pierre, écoute, il faut que je te parle une minute, parce que là, il y a un petit souci dans ce qui se passe là. Non, s'il y a une confrontation publique, cela veut dire que Pierre a commis une faute qui relève du domaine public, qui relève d'une gravité pour toute l'Église, et donc c'est publiquement que Paul va le reprendre, comme d'ailleurs, alors, je ne vais pas l'évoquer aujourd'hui, je vais l'évoquer, mais pas le développer, mais comme en effet dans des mesures éventuelles de discipline d'Église, eh bien, il y a des choses qui sont de l'ordre du privé, mais lorsqu'il s'agit d'un pasteur ou d'un ancien, il est du domaine public. Et un pasteur qui faute, alors on peut voir les degrés de faute également, mais un pasteur qui commet une faute publique doit être confronté publiquement. Ça ne plaît pas beaucoup en France, cela. Ça se fait plus dans le monde anglo-saxon, mais c'est une réalité biblique qui est à prendre en considération. Donc, Paul, ici, confronte Pierre publiquement parce que Pierre a commis une faute qui relève du public. Alors, c'est déjà suffisamment sérieux. J'ai envie de dire, ce n'est pas une première pour Pierre. On connaît Pierre, hein. Il a l'art de parler plus vite qu'il pense. On voit dans toute la vie de ministre qu'il s'est mis souvent dans des situations un peu inconfortables. Et ce n'est pas la première fois que Pierre est repris. Et repris même parfois publiquement. Je pense à deux événements en particulier, et j'y pense maintenant parce que j'y reviendrai plus tard. Vous souvenez le jour où Pierre a son moment de gloire auprès des disciples? Ah, il y a un moment où Pierre a dit, vous voyez, je suis bon quand même, hein. C'est pas mal là. Parce que c'est un moment où Jésus pose une question, et puis tout le monde se tâtonne un peu à répondre, et puis à un moment, Pierre fait le bingo là. Il répond dans le mille, il répond exactement ce qui devait être répondu, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus répond ici d'une façon, je vais revenir plus tard, mais Jésus répond, et on peut dire, Pierre... Je pense que suffisamment, il s'est senti bien. Et devant tous les apôtres, là, il a dit, vous voyez, c'est... Voilà, bon. Ouais, ben, ça ne va pas durer longtemps. Ça ne va pas durer longtemps parce que dans les instants qui suivent, Jésus continue la discussion et Jésus est en train d'annoncer la raison pour laquelle il est venu. Et Jésus annonce d'une façon claire, c'était pourtant clair dans tout l'Ancien Testament, mais Jésus annonce qu'en fait, il est venu certes pour former ses disciples, mais surtout pour entrer dans un temps où il va être jugé, condamné, où il va souffrir, où il va même donner sa vie, et ce ne sera pas un accident. Il va mourir d'une mort expiatoire, c'est-à-dire qu'il va donner sa vie pour les autres, et ce que l'on va fêter, célébrer dans les semaines qui viennent, c'est précisément de nous rappeler ce moment qui est un tournant de l'humanité complète, où Jésus va donner sa vie afin de prendre sur lui ce qui nous sépare de Dieu et de nous réconcilier avec Dieu. Et donc Pierre entend ça, se dit, bon, Seigneur, tu as reconnu que j'étais finalement pas mal, tu peux venir une minute, on va discuter un instant. Et là, Pierre, imaginez la scène quand même. Pierre prend Jésus par le bras, le mène à part, et le texte nous dit qu'il fait à Jésus des reproches. Il est en train de dire à Jésus ce qu'il doit faire ou ne pas faire, et particulièrement de dire, Jésus, tu ne peux pas aller sur cette voie-là, ça, c'est inconcevable que tu fasses une chose pareille. Et l'instant d'après, Jésus se fait entendre des choses assez surprenantes. Jésus lui dit, arrière de moi, Satan. Ouh ! Tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. Alors là, on peut dire, Pierre, enfin, on imagine la scène. Il est passé de très haut à très bas. Et que subitement, il a retrouvé le sens de l'humilité. Parce que là, il avait vraiment besoin de retrouver les choses. Ça arrive une deuxième fois, enfin, parmi d'autres, mais un autre épisode qui me paraît important à relever ici, c'est qu'on arrive au moment où vraiment Jésus va rentrer dans la passion. Vous connaissez tous l'histoire. Hein. Jésus vient d'annoncer qu'il sera... une occasion de chute pour eux. Jésus est en train de dire que ce qui va m'arriver maintenant, vous allez tous tomber. Et Pierre, peut-être, mais pas moi, quand il serait pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. Bon, franchement, je crois, au crédit de Pierre, je pense qu'il y croyait vraiment. Il était vraiment extrêmement intentionnel dans son désir de dire, mais il est hors de question de t'abandonner, il est hors de question de se laisser influencer d'une façon ou d'une autre ici. Hein? Et il reprend après, il dit, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai point. Et vous connaissez l'histoire. Jésus va lui dire, écoute, quand le coq aura chanté trois fois, tu m'auras renié. Peu de temps après, Pierre dira devant tous, je ne connais pas cet homme. Donc Pierre, ce n'est pas sa première. Et là, c'est Paul maintenant qui reprend Pierre en public. Alors, pour être honnête, j'ai pas non plus passé plusieurs semaines à essayer de refaire la chronologie des choses. C'est pas toujours évident si on veut comparer avec le texte des Actes des Apôtres. Il y a plusieurs théories et là n'est pas l'important de voir exactement ce qui s'est fait. Ce qui est important à relever donc, c'est que Paul reproche à Pierre d'être hypocrite. Waouh! Pierre, un hypocrite. Et dans son hypocrisie, il en entraîne d'autres à être hypocrites. Et au passage, Pierre, en fait, fait la cause précisément de ce que Paul est en train de débattre, de discuter, de redresser par rapport à une situation donc grave dans l'Église et grave dans l'Église de Galate. Ben, en fait, l'argument de Paul ici, c'est-à-dire que Pierre, par ce qu'il est en train de faire, donne raison à ceux qui combattent l'Évangile. Pas que Pierre combatte l'Évangile, mais que Pierre leur donne raison par ses actes. D'où l'importance de redresser la barre ici. Le contexte ici, c'est que les judaïsants, comme on les appelle ici, font pression sur les chrétiens d'origine païenne afin qu'ils appliquent des règles qui n'ont plus ou qui n'ont pas de raison d'être. Et ça va être la série de toute l'épître ici. Et on peut imaginer jusque-là, le peuple de Dieu était le peuple d'Israël. Jusque-là, il y avait des quantités de règles, il y avait des notions autour de l'alliance qui étaient posées, qui étaient fortes. Et il faut quand même se rappeler que ce peuple a vécu des générations où Dieu a rappelé au peuple des principes moteurs et fondamentaux qui étaient absolument clés et importants. Et donc le peuple finit par comprendre. On a évoqué la semaine dernière la question de la circoncision, de voir qu'il y a eu des périodes où c'était négligé. Dieu reprend le peuple et le met clairement dans sa loi. Ça fait partie de la loi. C'est un signe important pour montrer que le peuple répond à l'alliance de Dieu et ne pas circoncire ses enfants veut dire se rejeter l'alliance que Dieu nous a donnée. C'est une marque forte qui est donnée ici. Et donc, on a évoqué la semaine dernière que ça a été au travers des générations qu'on a finalement obéi. Et c'est une bonne chose d'obéir, mais on n'a pas compris le sens des choses. Et quand Jésus-Christ vient et que l'Évangile est accompli, en fait, il n'a pas été compris de suite que la mort de Jésus-Christ était en fait ce vers quoi pointait cette circoncision. Le sang doit couler pour qu'un peuple soit mis à part. Maintenant, Jésus est mort. Jésus a donné sa vie. Et donc, ce signe, ce symbole qui donne de pointer vers la réalité de l'Évangile pour tout le peuple de l'Ancien Testament, maintenant, ce signe revêt un sens nouveau. Parce que Christ est mort, son sang a coulé, mais il est ressuscité. Donc, enseveli avec lui par le baptême et ressuscité avec lui, le baptême va remplacer maintenant le sens de la circoncision. Mais pour tous ces chrétiennes et ces chrétiens de cette toute première génération qui viennent de l'histoire d'Israël, ils n'ont pas forcément compris qu'il y a des choses qui ne vont plus avoir de raison d'être parce qu'il y a autre chose qui remplace. Et il y aura une pression énorme. Jusque-là, l'Église était une Église façonnée dans l'histoire du peuple d'Israël. Et c'était d'ailleurs, Paul en fera un argument, du juif premièrement, puis du grec. Il va aller dans les synagogues pour prêcher l'Évangile. Il y aura une base absolument fondamentale, mais il y a des choses donc qui doivent être comprises pour être arrêtées. Et on sent là cette pression, alors qu'il y a des non-juifs, des non-circoncis, des païens qui se tournent vers le Seigneur, eh bien, il y a une église neuve qui est en train de naître, et là, il y a cette pression. Ah oui, mais attendez, vous rentrez dans le moule, mais le moule, c'est le moule, et vous devez respecter le moule et faire les choses ainsi. Sauf que c'est accompagné de ce qu'on a appelé déjà, qu'on va évoquer encore bien des fois, ce qu'on va appeler une forme de légalisme qui va faire qu'on va, en réalité, par une approche d'obéissance à des règles, on va passer à côté de la grandeur et de la beauté de l'Évangile. Alors ici, on est dans ce contexte et donc Pierre est en train de faire quelque chose qui va en fait faire la cause de ce mouvement ici. Et d'ailleurs, Pierre va céder à ce mouvement ici. Et donc Pierre est repris publiquement et donc le problème, là c'est plus la circoncision en tant que telle, mais c'est un problème d'aller dans la maison de païens et d'y partager un repas. Alors, petit flashback ici aussi pour revoir un petit peu ce qui est en train de se passer ici. Pierre a cheminé avec Jésus. Et au passage, Jésus a déjà entendu des reproches à ce sujet. Quand il allait, lui, manger dans la maison de certains et que les pharisiens disaient « Mais comment peut-il faire une chose pareille ? Il va se rendre impur en faisant une chose pareille. » Puis Jésus va leur dire aux disciples « Allez dans les nations, allez dans le monde entier. » Et la semaine dernière, j'avais évoqué, Jésus ne dit pas « Allez dans le monde entier pour circoncire le monde », mais il dit « Allez dans le monde entier les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Et puis là, si on pense à l'apôtre Pierre d'une façon plus particulière, il y a cet épisode dans les Actes des Apôtres, assez tôt dans les Actes, il y a cet épisode où Pierre reçoit une vision. Une vision très particulière qui l'invite à considérer que ce qui était des règles de pureté jusque-là s'ouvre et qu'il va être autorisé de manger des choses qui jusque-là ne l'étaient pas. Et que donc, ça va être une nouvelle dynamique de pouvoir manger chez un païen. Je cite ici ce que Pierre dit, ayant compris les choses, il parle à Corneille et ceux qui sont autour de lui. « Vous savez, dit-il, qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. » Et Pierre va baptiser Corneille et va habiter chez lui. Et donc va manger avec lui. Donc on voit que Pierre a compris qu'il y a un tournant qui s'opère et que les choses vont maintenant sortir juste du monde tel qu'il a été jusque-là et l'alliance va s'ouvrir aux nations et il y a des choses essentielles qui vont être maintenues, mais il y a des formes et des fonds qui vont changer et qui vont s'étendre sur beaucoup plus large ici. Précisons aussi, petite parenthèse, mais comment on appelait les repas dans l'Église primitive ? Les agapes ? C'est un sens de communion, sens où on vit quelque chose de fraternel, les uns avec les autres ici. Eh bien, c'est quand même toute une symbolique quand on pense que l'apôtre Paul va avoir comme thématique dans l'Église de Jésus-Christ, et particulièrement dans l'Épître aux Éphésiens, qui va dire « J'ai reçu une révélation d'un mystère, et ce mystère, c'est que maintenant, juifs et non-juifs vont former un seul peuple. » Et comment mieux témoigner ça que de manger ensemble ? Et d'ailleurs, l'idée du repas du Seigneur n'est-il pas un sens de la communion que nous pouvons avoir avec celui qui est assis à la place centrale de cette table et les uns avec les autres ici ? Eh bien, le fait de manger chez des non-juifs est une façon de montrer que la communion maintenant est étalée, est agrandie, non pas du monde juif, mais du monde aussi non-juif ici. Et donc, Pierre, dans un sens, accomplit cette nouvelle dynamique de l'Évangile, et c'est là une bonne chose. Mais dans le récit dont il est question, ce dont Paul fait écho ici, c'est que Pierre va retourner sa veste, Pierre va changer d'attitude, et il semblerait, si j'ai bien compris le contexte, que alors qu'il est à Antioche, des visiteurs viennent de Jérusalem, un mouvement conservateur vient, et dans ce mouvement ici, il y a et conservateur, ça peut être très positif, c'est même très bon souvent, on est conservateur, en tout cas nous on est pour, mais il y a parfois ça va un peu loin, et ce qu'on découvre ici, c'est que Pierre, les voyant venir, prend peur. Il prend peur d'être jugé, il prend peur en fait, on ne sait pas trop exactement de quoi. C'est John Piper qui dit qu'il a peut-être peur de perdre l'estime auprès de ce groupe venant de Jérusalem et ainsi de perdre le prestige de sa position de leadership. Ça pourrait être très très possible ici. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé, mais ce qu'on sait, c'est que Pierre subitement ne mange plus avec les païens. Il remet une distance là où il avait montré une communion, subitement il recrée une séparation comme avant. Et on sent que là, sous pression, il y a un malaise qui s'établit ici. Et ce qui est grave, c'est qu'il le fasse, et qu'il le fasse avec un problème de conscience, apparemment, un problème de pression. Qu'est-ce que les autres vont dire si je le fais ? Donc, il cède à ce « qu'en dira-t-on ? » C'est pas dit, mais probablement ça a dû questionner et blesser les personnes qui étaient là, qui disaient « Mais tiens, Pierre ne vient plus manger avec nous ici. » Et on sent qu'il y a une marche arrière ici, mais le truc c'est qu'il entraîne d'autres, il entraîne Barnabas, et il entraîne d'autres. Il y a une sorte de scission qui est en train de se faire dans l'Église à cause de cela. Il rompt la communion établie avec les chrétiennes et les chrétiens d'origine païenne, probablement pour plaire, pour satisfaire, pour ne pas se mettre en porte-à-faux avec des personnes qui viennent et qui ont l'air d'avoir dans leur veine le courant judaïsant. Je recite John Piper ici qui dit « Pierre et Barnabas et les autres ne font pas acte de droiture et de transparence dans l'application de la vérité de l'Évangile. Ils ne marchent pas droit avec la vérité de l'Évangile. Ils sont en décalage avec l'Évangile. » En fait, une sorte de double jeu qui s'opère ici. Avec certains, on agit d'une façon, avec d'autres, d'une autre façon. Et là, il y aurait tout un contexte, c'est-à-dire, il n'est pas question d'être juif avec les juifs et païen avec les païens, comme Paul le dira ici. On est en train de parler d'un problème de fond ici, et d'un problème sérieux. Toujours John Piper dit, l'Évangile n'engendre pas la peur. L'Évangile engendre la confiance, l'espérance et le courage. Et là, on sent que Pierre est en train de passer à côté de cela. Et c'est Calvin qui dit, la direction appropriée vers la vérité de l'Évangile était d'unir les gentils avec les juifs d'une telle façon que la vraie doctrine ne soit pas blessée. Et là, la vraie doctrine est blessée. Voilà un petit peu le contexte ici. Et précisons que même si Pierre, alors oui, précisons important que Pierre donc va être repris par rapport à cela, mais si vous vous souvenez, la semaine dernière, on a évoqué également qu'il y avait un problème dans l'Église de faux frères. Et que là, il y a une question de résister ferme à ce que ces faux frères ne dévient pas la doctrine de l'Église. Hein. C'est ce qui était dans les versets qui précèdent ici. Alors qu'on soit clair ici, Paul parle d'avoir résisté et tenu bon et fait taire les faux frères. Là maintenant, Paul est en train de parler de Pierre et qu'on soit clair, Pierre ne fait pas partie de cette catégorie des faux frères. Pierre n'est pas un faux frère dans l'histoire ici. Pierre est repris devant tous pour cette affaire, mais il y a une distinction. Il n'est pas traité de faux frère, et ne serait-ce que les formes, hein, le fond, on y reviendra à l'occasion, mais les formes ici, c'est que les faux frères, nous a-t-il dit, ont en fait une intentionnalité à s'opposer à l'Évangile. Ce n'est pas le cas de Pierre du tout. Pierre ne vient pas pour donner un contre-évangile. Il est en plein accord avec Paul sur la question de l'évangile. C'était d'ailleurs l'argument de Paul un peu plus tôt ici. Il n'est pas non plus, comme ils le disent au propos des faux frères, il n'est pas rentré, introduit furtivement dans l'Église. Au contraire, Pierre a été même posé par Jésus lui-même dans l'Église ici. Non plus qu'il n'espionne pas les libertés des chrétiens, ce qui est le cas des faux frères, qui rentrent pour espionner leur liberté. Il ne cherche pas non plus à asservir les autres. C'est presque l'inverse. Il cherche au contraire à être proche des autres. Il ne prêche pas la nécessité de la loi et de la circoncision, et donc il ne s'oppose pas à la prédication de Paul. Non, John Piper, encore pour le citer, parle d'une inconsistance passagère. Grave, mais de l'ordre d'une inconsistance pour lequel Pierre va donc être repris. Donc Paul reprend Pierre dans le cadre de cette inconsistance. Mais la question que l'on pourrait se poser, c'est pourquoi, parce que ce que Paul est en train d'écrire, rappelons-nous, Paul écrit aux églises de la Galatie. Les églises de Galatie sont étrangères à cet épisode. Donc pourquoi Paul met-il ceci dans son argumentation de cette première partie de l'épître aux Galates? Eh bien, merci pour la question, c'est une bonne question. On va essayer d'y répondre un petit peu. Pourquoi ce texte est ici finalement? Eh bien, rappelons-nous que Paul argumente pour défendre la cause de l'Évangile, pour revenir à la pureté de l'Évangile qui est en train d'être déviée, qui est en train d'être détourné. Souvenez-vous, le terme qui avait été employé, c'est que ce qui se passe ici, c'est un 180 degrés par rapport à l'Évangile. C'est un profond détournement. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une possibilité d'y ajouter un détail. Non, c'est clairement un demi-tour complet par rapport à la dynamique de l'Évangile. Donc Paul est en train d'avertir l'Église qu'elle est en train de dévier, de se laisser influencer par certains. Et l'argument de Paul, parce qu'évidemment, le grand truc pour les chrétiennes et les chrétiens, c'était d'ailleurs le cas à Corinthe aussi, c'est de dire, écoute Paul, t'es bien gentil, mais nous on te connaît pas trop, et puis d'ailleurs t'es pas des 12. Donc tu nous apportes ta secte ici, tu nous apportes tes grandes idées, mais tu n'es pas un vrai apôtre, donc pourquoi on t'écouterait toi? Nous on a référence à Pierre, à Jacques et à Jean. Enfin, c'est pas dit comme ça, mais ça veut un peu dire ça. Alors Paul est en train de dire, je suis un apôtre. Et d'ailleurs, franchement, c'est pas moi qui l'ai décidé, c'était pas mon choix, c'est Jésus-Christ lui-même qui m'a arrêté sur le chemin de Damas. Et c'est Jésus-Christ ressuscité qui s'est révélé à moi. C'est Paul met en avant le critère même d'un apôtre. ne peut être apôtre que quelqu'un qui a rencontré Christ ressuscité et qui s'est fait appeler. Ce n'est pas tous ceux qui ont vu Christ ressuscité qui étaient les apôtres, mais qui a été spécifiquement appelé à une vocation qui va être pour donner les fondations dont l'Église aura besoin, fondations par l'implantation de l'Église, par la mise en place de structures et par l'écriture de textes qui vont venir jusqu'à nous aujourd'hui. Donc Paul commence à dire, si je suis apôtre, je suis apôtre et je le suis parce que Jésus-Christ en personne m'a interpellé. Puis il va dire, je suis également apôtre parce que je n'ai pas été influencé par des hommes, mais par Dieu lui-même. Et j'ai passé du temps seul avec le Saint-Esprit pour être conduit à revoir toutes choses. Mais ce n'est pas juste un individu à part, il va montrer qu'il est venu à Jérusalem, qu'il a rencontré Pierre, Jacques et Jean, qui ont approuvé son ministère, puis les 12, qui l'approuvent aussi. Donc on est dans ce contexte où Paul est en train de construire et de dire, si je suis bel et bien un apôtre et j'ai la crédibilité de l'appel de Jésus-Christ, j'ai la crédibilité des 12 qui sont là et qui portent complètement le fait que je sois un des leurs. Et maintenant, dans les textes que nous avons devant nous ici, eh bien, Paul est en train de dire, et en plus, Pierre n'est pas forcément le grand chef des grands chefs des apôtres. Alors, je sais que certains le croient, mais Paul est en train de dire, en fait, je suis au même rang qu'eux, et d'ailleurs, pour le prouver, c'est que j'ai dû montrer que Pierre se trompait. Et j'ai été pleinement appuyé dans ma démarche. C'est pas que Paul a fait sa petite crise de jalousie vis-à-vis de Pierre, c'est que Paul a montré qu'il y avait un problème, et Pierre ne va pas confronter Paul sur la question. Il ne va pas dire, écoute, laisse-moi tranquille, je suis apôtre avant toi. Pierre est en train de dire, en fait, tu as raison. Et l'ensemble du corps apostolique va appuyer. Donc, Paul est en train de dire qu'alors même qu'il est en train de construire sa défense ici, pour dire qu'il est appelé à, eh bien, il va faire mention de ce récit pour également accorder le fait qu'il est aussi... appuyer même dans cette mesure de reprise, d'être confronté publiquement ici. D'autant plus que cette confrontation touche au sujet que Paul traite pour avertir de la perversion de l'évangile par le mouvement des judaïsants. Et rappelons-nous que dans le contexte ici, Paul n'est pas là pour se mettre en avant. Paul n'est pas là pour dire « je suis un bon apôtre ». Paul n'est pas là pour dire « je suis même plus intelligent que Pierre ». Paul n'est pas là pour dire « je comprends mieux les choses que Pierre ». Paul est clairement là pour faire la promotion de l'Évangile. Et le point qu'il développe ici, ce n'est pas de parler d'être plus intelligent, d'être plus ci et plus là, c'est le point de dire « l'Évangile, dans cet exemple précis, est en train de prendre une tangente ». Alors revenons sur l'Évangile ici. Et dans cet exemple, Pierre, en fait... sans s'en rendre compte, de façon inconsistante, va faire la cause du judaïsme, ce qui fait que Paul va poursuivre dans sa défense de l'Évangile par rapport au légalisme des judaïsants. Eh bien, Paul va poursuivre sa défense de l'Évangile en montrant son indépendance vis-à-vis des autres apôtres, mais également sa solidarité réciproque dans le cercle des apôtres ici. Et ainsi donc, la situation des églises de la Galatie, dans les situations des églises de la Galatie, eh bien, si l'argument était de dire que Paul n'a pas autorité comme les 12 l'ont, eh bien, Paul est en train d'appuyer pour dire que si, il a pleinement l'autorité d'être le représentant de l'Évangile. Et ce qui avait été dit avant, c'est que non seulement il est un des apôtres de l'Évangile, mais en plus, il a une vocation particulière à être celui qui va annoncer l'Évangile dans le monde des païens. Donc, il a des choses à dire là-dessus et de façon toute particulière. Donc, voilà grosso modo pour le contexte de ce texte. Et ce qui se passe ici. On peut dire beaucoup plus de choses, mais ce que je vous propose maintenant, c'est de venir à un temps de dire, mais qu'est-ce que ça nous dit à nous ce matin ici? Alors, premier élément d'application que je vous propose de voir là, c'est que, encore une fois, on est toujours dans ce contexte où il y a l'Évangile et il y a ce qui s'oppose à l'Évangile et qui pourtant peut être tellement dans nos églises. Le problème du légalisme, c'est le problème de se dire c'est parce que je vais faire quelque chose ou être quelque chose que je peux gagner un crédit devant Dieu et être accepté par Dieu, aimé par Dieu et que Dieu va agir dans ma vie. Ou le problème de l'antinomie, c'est de dire oui, après tout, pourquoi obéir ? Dieu est rempli de bonté et de grâce, donc quoi que je fasse, il va dire amen, tout ira bien, c'est payé, je m'en fiche un petit peu, enfin, pour être très simple, très schématique. Et de dire, l'évangile, ce n'est ni l'un ni l'autre. L'évangile, c'est de réaliser qu'il n'y a rien en moi, ni dans mes pensées, ni dans ce que je peux ressentir, ni dans ce que je peux faire. Il n'y a absolument rien en moi qui puisse m'accorder quelque droit que ce soit devant Dieu. Seule la grâce de Jésus-Christ est ce qui peut m'accorder sa présence. Seul l'évangile, parce que Dieu m'a aimé d'une façon telle qu'il a donné son Fils, afin que par la foi, je puisse être intégré dans sa famille. Donc le premier point de se rappeler ici, c'est qu'on est toujours dans cette thématique de nous rappeler la centralité et la grandeur et l'importance de l'évangile. Mais l'autre chose à réaliser ici, c'est que on peut être inconséquent. Si Pierre a démontré qu'il pouvait manquer un objectif dans cette belle doctrine de passer à côté, eh bien, il y a dans notre humanité, il y a dans nos faiblesses, il y a de l'inconséquence et on peut passer à côté ici. Et donc c'est un avertissement de se dire qu'on peut avoir la meilleure doctrine, on peut avoir la meilleure histoire de l'Église, on peut avoir les meilleures choses ici et pécher par inconséquence. Péché en se trompant, en loupant certains objectifs ici. Et l'avertissement ici, qui est un avertissement très général, mais qui peut être vrai ici, donc c'est l'occasion de le dire. S'il y a une chose qui peut tromper les chrétiennes et les chrétiens dans la vie de tous les jours, comme dans des sujets comme celui-là, c'est de croire que mes inconséquences, de croire que même mes fautes ne concernent que moi. Ce n'est jamais le cas. La faute d'un homme a toujours des répercussions sur d'autres. Et ici, en l'occurrence, l'erreur de Pierre va avoir des conséquences sur un ensemble de responsables et sur toute une communauté. D'où l'importance pour un leader d'être pris publiquement, pour que la communauté réalise qu'il y a quelque chose ici d'important et de très sérieux à prendre. Quand on est dans son petit coin, et je reviens sur cette idée du carême, et peut-être sur refaire le point sur nos priorités. Ce n'est pas parce qu'on est devant un écran. Ce n'est pas parce qu'on est tout seul dans sa chambre ou seul dans son bureau et qu'on regarde certaines choses sur ces écrans ou qu'on fait partie d'un club ou de je ne sais quoi là. Ce n'est pas parce qu'on est là que ça ne va pas avoir des effets sur le monde autour de nous. On voit bien d'ailleurs combien dans des scandales éclatent. Il y en a un qui est visé, mais ça entraîne tous les autres avec. On doit être très vigilant à cela. Et je crois qu'ici, ce qui se passe, qui est une inconséquence de Pierre par rapport à une question de crédibilité vis-à-vis de ses pairs et autres, eh bien, a des effets vis-à-vis de Dieu, mais aussi vis-à-vis des hommes. Mais l'autre élément qui me paraît important ici à relever, c'est que nous voyons en Paul ici que Dieu l'a envoyé pour préciser le cap, pour garder le cap, quitte à ne pas être très apprécié dans ses propos. Mais Paul va être un peu le garde-fou ici qui va nous garder dans la ligne droite et il faut qu'on se rappelle qu'il est fondamental d'écouter l'apôtre Paul dans ce contexte ici, dans la défense de l'évangile, dans la défense de la vérité, quitte à se laisser recadrer. C'est très important. Et je rappelle, je l'ai déjà dit, mais je rappelle que Pierre ne va pas contester un seul instant ce qui se passe. Pierre va admettre et que l'unité de l'évangile est pleinement maintenue. Ce n'est pas qu'il y a deux versions de l'évangile, ce n'est pas qu'il y a l'évangile de Pierre et l'évangile de Paul. Les deux vont complètement adhérer à ce même évangile. Et donc, si besoin, il y en a un qui va redresser l'autre pour que cela. Et cela doit aussi nous interpeller, parce qu'il y a un évangile et un seul. Rappelons-nous, quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, et la vie. » Et quand il dit que nul ne vient au Père sinon par moi, Jésus ne dit pas que c'est vrai à partir du moment où il le dit. La réalité de l'évangile, c'est que c'était vrai pour Abraham. C'était vrai pour Moïse. C'était vrai pour les prophètes et c'est vrai pour nous. Il y a un seul évangile. Le peuple de l'Ancien Testament vivra en Dieu, pas parce qu'ils ont offert un agneau en sacrifice. Le peuple de l'Ancien Testament vivra auprès de Dieu parus que Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et que par la foi, en offrant un agneau à la période de la Pâque juive, pour le pardon des péchés, c'est la foi. Dieu reçoit cet acte de foi pour le seul acte, absolument seul, valable, qu'est la mort de son Fils Jésus-Christ en ce soir de la Passion. Il y a un seul évangile, rappelons-nous ça. Il n'y a pas un évangile de l'Ancien Testament, un évangile du Nouveau Testament, un évangile de la chapelle de Nesle, un évangile d'ailleurs. Il y a un seul évangile. Mais ce sur quoi j'aimerais terminer et attirer notre attention. Alors c'est un point, disons-le, c'est un point très secondaire par rapport à ce que je viens de dire sur la centralité de l'évangile. Mais ça me paraît intéressant de le relever ce matin, parce que peut-être ça va parler à quelques-uns parmi nous. Ce que je voudrais relever comme point d'application et point de remarque ici, c'est que l'évangile, c'est aussi ce qui se passe dans la vie de Pierre. On a évoqué que Pierre a eu ses précédents. J'aimerais y revenir un instant. Quand Pierre vit ce grand moment où il peut vraiment briller auprès des autres, il a répondu dans le mille, il a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et ce même Pierre qui, quelques instants après, va se faire entendre « Arrière de moi, Satan, tu es pour moi un scandale, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais des hommes. » On pourrait dire une certaine inconstance. On pourrait dire « Là, il a tout juste, mais là, il a tout faux. » C'est à ce Pierre-là que Jésus va dire « Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon Église. » Alors on comprend qu'il parle à Pierre, qu'il parle aux apôtres, mais c'est quand même à l'homme à qui Jésus dit « Arrière de moi, Satan !» C'est à l'homme qui vient de faillir dans sa pensée, à l'homme qui montre sa faiblesse, son inconsistance, c'est à lui que Jésus va dire « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église. » On pourrait dire autrement, on pourrait dire « Voilà, en fait, Jésus dit ça juste avant, mais il connaît Pierre. Mais ce que Jésus ne dit pas, c'est de dire, voilà, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon Église. Après, Pierre qui dit, ah oui, mais non, attends, tu ne peux pas faire ça, arrière de moi, Satan. Bon, les apôtres, on remet les dés à zéro. Pierre vient de louper le coup, là. Donc, on va appeler Jacques, tu veux bien prendre la place de Pierre, parce que Pierre a passé à côté. Il y a quelque chose d'intéressant à relever ici dans l'Évangile. Ça ne dépend pas de nous. Ça ne dépend même pas de Pierre. Et n'est-ce pas intéressant de voir que la grandeur de l'Évangile, elle vient de Dieu. C'est lui qui la pose, c'est lui qui en fait les promesses, c'est lui qui va l'accomplir. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'il l'accomplit même quand on fait fausse route. Même quand on tombe. Pas une excuse, hein. Faut pas en train de se dire, oui, on va en profiter, c'est pas grave, c'est passé. Donc, j'espère que vous comprenez dans quel esprit je dis ceci. Mais l'autre exemple est encore plus fort. Alors que Jésus vient d'annoncer qu'il va être une occasion de chute, alors que Pierre dit « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, moi, tu ne seras jamais pour moi. » Quand il dit à Jésus « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et quand quelques instants plus tard, il dit « Je ne connais pas cet homme. » Vous parlez d'une trahison. Vous parlez d'une chute. Vous parlez d'un discrédit. C'est pourtant à ce Pierre-là que Jésus, ressuscité, va prendre la part. Et va lui dire, m'aimes-tu plus que ? Prends soin de mes agneaux. Sois le berger de mes brebis. Prends soin de mes brebis. Ce qui se passe dans ce récit ici, c'est qu'on voit Paul qui va militer pour que l'Évangile soit préservé dans sa grandeur, dans sa beauté, dans sa majesté. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il peut y avoir des faillites chez les hommes. Et que ces faillites vont nécessiter une discipline, vont nécessiter de redresser la barre, vont nécessiter de la douleur à admettre qu'on s'est trompé, etc. Là. Mais l'Évangile est là. Il vient de Jésus-Christ. Et même l'apôtre Pierre est un exemple qui nous est montré que Jésus dit, c'est moi qui t'ai appelé. C'est moi qui vais te mener là. Et je vais bâtir mon église avec toi. Et je vais t'envoyer pour être le pasteur de mes brebis. N'est-ce pas encourageant? N'est-ce pas encourageant de dire que le Seigneur nous confie ce magnifique et splendide évangile et de se dire, mais j'en suis pas digne. Et de se dire, mais combien de fois est-ce que je passe à côté? Combien de fois est-ce que je loupe? Mais la question n'est pas là. Il y a des choses qui doivent être corrigées, qui doivent être prises. Mais rappelons-nous que c'est Dieu qui bâtit son Église. Que c'est Jésus-Christ qui envoie. C'est lui qui appelle. Et ceux qui l'appellent, il les conduit jusqu'au bout du chemin. Oui, la Bible présente un message clair de l'Évangile, avec de fabuleuses promesses. Mais la Bible présente aussi avec une grande honnêteté des hommes et des femmes faillibles. Mais l'œuvre de l'Évangile se fait.